Allô? Allô? Le général Powell va parler. Allô? Allô? Le général va parler.
J'ai envie de vous livrer une information que j'ai trouvée dans le Canard enchaîné du mercredi 29 janvier 2003. Donc, le Canard dit, voilà une information dont la presse française n'a pas fait ses choux gras. Le groupe Nestlé, leader mondial de l'agroalimentaire, 6,15 milliards de dollars de profit net en 2001, réclame pas moins de 6 millions de dollars à l'Éthiopie, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Motif. Il y a 27 ans, le gouvernement éthiopien a nationalisé l'usine Elitco, Ethiopian Livestock Development Company, appartenant au groupe allemand Schweppes. En 1986, Nestlé a acheté ce groupe. Et c'est à ce titre que la multinationale suisse exige aujourd'hui d'être indemnisée. Selon Oxfam International, une confédération de 12 ONG, avec la somme réclamée, on pourrait construire 6500 puits dans ce pays ravagé par la sécheresse, où 11 millions de personnes sont menacées par la famine. Tout cela n'a pas empêché le PDG de Nestlé, Peter Brabeck, d'aller jouer les têtes d'affiche à Davos, où il a débattu avec quelques ONG, notamment sur la globalisation éthique. Voilà. Sans commentaire. Bonsoir.
Curieuse coïncidence, cet après-midi, je lis un article dans Le Monde d'une journaliste avec un grand J pour répondre, qui dépêchait en Tchétchénie, relatait ce qui se passait là-bas à travers des témoignages de survivants et par ses propres investigations. Et ce soir, j'ai écouté « Là-bas, si j'y suis ». Et je suis triste, triste et atterré. Quelle issue faut-il espérer ? La France, l'Allemagne, animée d'une ambition qu'on pourrait espérer noble, s'oppose aux Texans débiles, mais dans le même temps reçoivent avec les honneurs un digne héritier de Staline. J'en veux aux médias qui officient aux heures de grande écoute, qui occultent délibérément les 600 000 enfants irakiens morts depuis 10 ans, et les enfants tchétchènes que les soldats russes enlèvent à leurs parents en pleine nuit, et qu'ils font sauter à l'explosif. Oui, vous avez bien entendu, ce ne sont pas leurs enfants que les parents tchétchènes retrouvent, mais des morceaux d'enfants déchiquetés. Et nous sommes prêts à nous réjouir du soutien de Poutine dans l'initiative franco-allemande. Alors voilà, j'ai un enfant de 5 ans et j'ai envie de vomir. Je n'ai vraiment plus la foi. Bonsoir, c'était Denis de Voren.
Jean-Talimi de Bonut, voilà, c'était pour remercier énormément Daniel Mermet pour son émission sur Bafo. C'est excellent parce que c'est paillard et ça apporte un brin d'amour dans ce monde de bruit de bottes, de bombes et de tueries. Merci beaucoup encore et encore d'autres comme ça, on aime. Merci beaucoup, au revoir.
Et voilà, on peut partir en voyage, la boutique est bien gardée, vous n'avez pas changé, voilà, en retour de reportage, quelques-uns de vos messages trouvés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. On en diffusera davantage demain parce que vous avez réagi à la fois sur toutes les émissions qu'on vous a fait réentendre pendant ces voyages et puis sur l'actualité. Donc on prendra un peu plus de temps demain. Aujourd'hui, on part à Leningrad, retour à Leningrad. Le siège de Leningrad est une émission dont vous demandez très souvent la rediffusion. L'occasion, c'est pas seulement la visite de Monsieur Poutine, c'est aussi le voyage que nous venons de faire à Volgograd, ex-Stalingrad, à l'occasion du 60e anniversaire de la bataille de Stalingrad et de la victoire de Stalingrad, et qui s'est produit donc au moment, en même temps que le siège de Leningrad dont il va être question dans cette émission. Leningrad, c'est Saint-Pétersbourg aujourd'hui, Stalingrad, c'est Volgograd aujourd'hui, et c'est espacé de quelques milliers de kilomètres, mais c'est sur ce même front que les armées j'allais dire allemandes, non, il faut pas dire allemandes, parce qu'il n'y avait pas seulement la Wehrmacht, il y avait aussi des des unités italiennes, roumaines, hongroises, etc. Et les soviétiques de l'époque et les Russes aujourd'hui disent toujours les fascistes. Alors voilà, c'est ce grand front qui a vu s'opposer quand même 5 millions d'hommes de chaque côté, c'est-à-dire 10 millions d'hommes engagés sur le plan militaire pendant cette immense bataille. On revient à effondré sous le poids des mots et sous le poids des chiffres. 27 millions de morts pendant ce que les soviétiques avaient baptisé la Grande Guerre Patriotique. 27 millions, c'est-à-dire de juin 41 à mai 45, 19 000 morts par jour du côté soviétique seul. 18 millions de prisonniers civils, de civils faits prisonniers, déportés dans des camps allemands, même si ces camps étaient parfois sur le territoire soviétique. 5 millions, plus de 5 millions de militaires prisonniers, dont plus de la moitié moururent dans les camps, et les autres au retour ont été renvoyés dans des goulags. C'est des chiffres astronomiques et sur lesquels nous nous interrogerons, mais aussi que nous allons pouvoir faire vivre, parce que nous rapportons beaucoup de témoignages de ces vétérans militaires ou civils. Ils sont encore là, ils avaient 15 ans, 7 ans, comme Galina, que vous entendrez. Ils étaient enfants, donc voilà, ces témoignages que nous avons essayé de rapporter. Puis on parlera aussi de l'occasion de la mort du petit père des peuples, le 5 mars prochain, il y a 50 ans. On a interrogé beaucoup des gens que nous avons rencontrés pour qu'ils nous disent souvenez-vous de la mort de Staline, que vous rappelle, c'est des souvenirs extraordinaires, des émotions extraordinaires. Et puis on évoquera aussi la Tchétchénie et les Tchétchènes, ces amis tchétchènes que nous avons rencontrés en 1996 et que six ans et demi après nous avons retrouvés exilés en Pologne, à Lublin, où ils attendent, ils savent plus quoi. Ils sont dans la sécurité, certes, mais dans la nostalgie, dans ce flottement de l'exode que beaucoup ont connu. Certains Français, des devenus Français ou des Français, ont connu cet état, et on évoquera avec eux et leur passé en Tchétchénie, et puis cette quête des Tchétchènes, ces Tchétchènes perdus à travers le monde suite à la petite guerre de Monsieur Yeltsin, d'abord prolongée par Monsieur Poutine aujourd'hui. Donc le siège de Leningrad aujourd'hui, mais d'abord un petit message avant d'y aller.
Oui, allô, bonjour à Daniel et à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis. C'est Thomas au téléphone de Chauny. Voilà, j'ai rien de spécial à dire, je voulais juste faire un petit coucou à une personne qui écoute souvent cette émission. Voilà, coucou Marie-Claude, ça va? Bon, bah merci à vous et puis à bientôt.
Pendant 900 jours, ce métronome n'a pas cessé de fonctionner à la radio de Leningrad. Pendant 900 jours, le siège de Leningrad. On entendait ce métronome, sauf pendant les pannes de courant. Aujourd'hui, retour à Leningrad pour l'évocation du siège avec la dernière survivante de l'orchestre philharmonique de la ville. Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varier, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
J'ai только один суп.
Nous avons mangé seulement une seule soupe. C'était le 25 décembre 1941.
Одно только желание осталось – пожрать. Уже не кушать, а пожрать.
Je n'avais plus qu'un seul souhait, c'était celui de bouffer. Pas de manger, mais de bouffer. Là, vous voyez, c'est une nouvelle année qui commence. Nous sommes en 42 déjà. Mercredi.
Вот я не знаю, читать теперь нет. Магазины пусты. Еще за вторую декаду не могут выдать продукты. Кушать нечего.
Il y a rien à manger. Les magasins sont vides.
Après qu'on ait mangé les chiens, les chats, les rats, on a mangé les corps des arbres morts. On a déterré les feuilles pourries sous la neige pour les manger. On a fait bouillir le cuir des chaussures pour manger. Manger, manger, manger. Un seul mot pendant près de 900 jours de folie noire, de martyr rouge. Du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944, le siège de Leningrad. Hitler a décidé de vaincre Leningrad par la famine, affamer la population. Il y aura de 800 000 à 1 million de morts sur les 3 millions d'habitants qui furent pendant 900 jours enfermés. Il y eut jusqu'à 8 000 morts certains jours, mais les habitants ne se sont pas rendus. Des tonnes, des tapis de bombes sur Leningrad, plus personne n'a la force d'entasser les morts, les cadavres restent épars. Sur la perspective Nevski, on meurt de faim partout, le cannibalisme se répand, mais les habitants résistent, tiennent, ils ont tenu. Souffrir est un mot russe, mais aussi résister. Je dis Leningrad, parce que les survivants de ce martyr disent Leningrad. On a salué le retour de Saint-Pétersbourg, mais eux, leur ville, c'est encore Leningrad. Vivre ou ne pas vivre n'est pas notre question, notre vie appartient à Leningrad. Héroïsme extraordinaire de ses habitants. Leningrad, c'était peut-être pas pour Lénine, et en tout cas pas pour Staline, qui détestait cette ville européenne, occidentale. On sait comment aujourd'hui Staline n'a rien fait pour Leningrad, bien au contraire, même si l'incroyable martyr des Russes, des Soviétiques, a été la base et le fondement de l'apogée stalinienne. Il n'aimait pas du tout cette ville. Alors, tout ça, de toute façon, c'est de l'histoire et ça nous intéresse modérément. Comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire des gens. Et à Leningrad, pendant le siège, est venue aux autorités, aux gens, une idée absolument délirante, c'est faire donner des concerts malgré le siège. Et c'était impossible parce que les musiciens mouraient, oui, et c'était inconcevable de faire une chose pareille. Et cependant, on a demandé à Shostakovich d'écrire une œuvre, ce qu'il a fait. Et le 9 septembre 1942 fut créé à Leningrad, sous les bombes, Leningrad assiégé, encerclé, affamé, la 7e symphonie de Shostakovich. De cet orchestre, il ne reste plus aujourd'hui qu'une seule personne, une seule survivante. Elle s'appelle Xenia Markiyanovna. Elle nous attend. Elle est là. C'est avec elle qu'on va prendre le café dans Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Une dame avec très belle, avec des cheveux blancs, un tailleur noir, un grand sourire, une cigarette, une boîte d'allumettes, et au revers de son tailleur noir, les médailles de son histoire. Xenia, elle s'est fait belle aujourd'hui. Elle est, c'est une très jolie dame, avec des, elle est magnifique, oui, vraiment. Et là, elle a mis aujourd'hui, pour nous honorer, toutes ses médailles. On va d'abord demander qu'est-ce que c'est que ces médailles que vous portez là.
Moi, je t'aime.
Qui sont superbes, toutes, comme une femme porte comme ça au revers.
Ça, c'est à cause du siège que j'ai reçu cette médaille, parce que j'ai défendu Leningrad.
Так, о, ветеран Отечественной войны.
Ça, c'est comme ma médaille de vétéran de la Deuxième Guerre.
Великой Отечественной войны медаль. Дальше, трудовую доблесть, это за мою работу.
Et ça, c'est une médaille parce que j'ai bien travaillé.
Герою славы, 250 лет Ленинграду.
Ça, c'est la médaille pour l'anniversaire de la construction de la ville de Leningrad à 250 ans. Et voilà, c'était la ville héroïque du pays.
Вот это блокада.
Vous regardez, je voudrais vous montrer ces photos. Ça, c'est le siège.
Блокада, посмотрите на эти лица.
Regardez ces visages, вот regardez les visages de ces musiciens.
Дистрофики у нас назывались.
Ils sont дистрофиés.
Дистрофики. Это 42-й год.
Ça, c'était en 1942. Vous voyez leur visage.
Это вот симфонический оркестр.
C'était notre orchestre symphonique.
Из этих людей уже никого не осталось.
De tous ces gens que vous voyez sur cette photo, il ne reste plus personne.
И вот
maintenant,
эти люди в 46-м году.
Ça, c'est en 1964.
И я вам покажу. Вот это лицо, посмотрите.
Ce monsieur-là, en 1941-42, mm-hmm. Vous voyez вот son visage. Лицо. Et là, c'est la même personne que là, sur cette photo-là, en 64.
Остальные, в общем, все умерли.
Et tous les autres sont morts.
On arrachait le papier peint des murs pour gratter la colle parce qu'on supposait que cette colle était faite de fécule de pommes de terre. On mâchait le papier peint ensuite et aussi le plâtre pour se garnir l'estomac. Évidemment, les lapins, les cobayes, les souris blanches du laboratoire avaient été bouffés, tout comme les chiens et les chats des rues. Et un écrivain, Elena Scriabina, écrivait dans son journal « Il est facile de mourir aujourd'hui ». Ne pensez plus à ce qui vous entoure, étendez-vous sur votre lit et vous ne vous lèverez plus jamais. Il y a eu, on le sait, des cas très nombreux de cannibalisme pendant le siège de Leningrad et mieux encore au marché au foin, à la place du marché au foin, bien célèbre à Saint-Pétersbourg, dans le Saint-Pétersbourg de Dostoïevski et dans Saint-Pétersbourg d'aujourd'hui toujours, on a vu apparaître à certains moments des hommes tout à fait prospères, bien nourris et tout à fait superbes, alors que tout le monde mourait de faim. 800 000 à 1 million de morts, dont les trois quarts sont morts de faim pendant ces 900 jours de siège. Et il y avait ces gars tout à fait prospères qui vendaient de la viande, qui vendaient des saucisses, qui vendaient du pâté, dont ils étaient absolument incapable de donner l'origine. Ils se contentaient, quand on leur posait la question, d'éclater de rire. Mais on leur posait pas la question, parce que tout le monde savait qu'il s'agissait de chair humaine. Et cependant, dans les sous-sols du musée de l'Ermitage, il y avait des hommes
qui vivait, qui étudiait, qui travaillait et qui mourait à la lueur de minuscules chandelles. Il y avait là des savants qui soufflaient sur leurs encriers pour les empêcher de geler. Il y a eu 2000 personnes qui habitaient sous l'Ermitage, sous le musée de l'Ermitage, dans ces vastes catacombes, dans une ambiance polaire. Eh ben, il y avait là des artistes de Leningrad, les peintres, par exemple, qui luttaient pour survivre et qui ont même organisé des expositions dans les caves du musée de Leningrad. Alors, il y avait le directeur du musée de Leningrad s'appelait Monsieur Orbeli, et ce Monsieur Orbeli, ce héros extraordinaire, était sollicité très fréquemment par des gens en quête de cercueils. C'était la chose la plus rare. Un cercueil. Et comme le musée disposait d'un stock de caisses d'emballage, on a demandé à Orbeli de donner quelques planches pour faire un cercueil, mais au bout d'un moment, il était incapable de fournir ces caisses, parce que le menuisier de l'Ermitage lui-même était mort d'inanition. On a entassé les cadavres n'importe où pendant le siège de Saint-Pétersbourg, et pour enterrer les corps, un peu partout dans la ville, on s'est servi d'excavatrices mécaniques. Les habitants pensaient qu'on était en train de faire des tranchées ou quelque chose. Non, c'était pour mettre les morts. L'histoire du monde n'a pas connu, disait le journal officiel de la ville, de tragédie plus terrible que celle de la famine à Leningrad.
Когда я встретил эту свою подружку, ей надо уезжать. Я взяла инструмент дома, он весь позеленел, подушечки отклеились. Я должна была идти к мастеру починить его.
Mais, donc quand j'ai dû aller à la radio pour cet orchestre, j'ai voulu prendre mon hautbois et les touches étaient vertes et décollées. Il a fallu que j'aille chez un artisan pour qu'il me répare mon hautbois.
Прихожу, все двери, вообще квартиры не закрывались. Приходи в любую квартиру и входи. Прихожу к мастеру, открываю дверь, вхожу в его комнату. Он сидит в кресле.
Alors je suis arrivée chez l'artisan et je suis rentrée chez lui. Il était assis dans un fauteuil, comme ça, dans un coin, avec une couverture sur lui. Évidemment, il m'a reconnue.
В комнате холод жуткий, он один совершенно.
Il faisait très très froid chez lui et il était tout seul.
И я смотрю, вот так на кресле. То ли кошка лежит, то ли что-то такое меховое. Я не обратила внимания, ничего не спросила.
И moi, j'ai remarqué qu'à côté de lui, il y avait quelque chose, je ne savais pas exactement ce que c'était, peut-être un chat, enfin quelque chose en fourrure.
В общем, попросила его мне отремонтировать, срочный ремонт, что мне на работу. Он хорошо, приходи, говорит, я сделаю тебе.
Alors, je lui ai demandé qu'il me répare rapidement mon bois, parce que j'en avais besoin pour aller travailler. Il m'a dit, mais oui, je vais vous le faire.
Приходи, говорит, послезавтра. Я послезавтра снова прихожу.
Илья мне говорит, reviens après-demain. Он, le surlendemain, je suis revenue.
Он мне дает гобой. Я пробую. Играет великолепно.
Il me redonne mon bois. Je l'essaie. Il marche très bien.
И спрашиваю, сколько я вам должна?
Et je lui dis, combien je vous dois pour cette préparation?
Дорогуша моя, принеси мне кошечку. Ты знаешь, какое это мясо вкусное? Лучше курятины. Я говорю, а кошек нигде нет.
Где же я вам возьму? Tu sais, ma petite chérie, plutôt que de m'amener de l'argent, amène-moi un chat, parce que tu sais comme elle est bonne, cette viande. Est-ce que tu sais comme c'est bon, le chat?
В результате я ему заплатила деньги и ушла.
Но когда... J'ai quand même réussi à le payer et je suis partie.
И когда я пришла домой, я развернула гобой, а там масло, он же смазывал мне все. И мне все казалось, что это кошачий жир.
Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon bois et puis il l'avait graissé mon bois et moi j'avais l'impression que c'était de la graisse de chat.
Et вот так я пришла в радио.
Et c'est comme ça que je suis arrivée à la radio.
Ça, c'est quoi? C'est un journal que vous avez tenu pendant le siège?
Oui, regardez. J'ai écrit cela le 16 septembre 1941.
Je vais voir la couverture.
Non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est un cahier d'étudiant. Tout ça, c'est ce que j'ai écrit quand j'étais au conservatoire. Voilà, ça s'est terminé là. Et là, c'est mon journal qui commence. Le journal du siège. Est-ce que vous voulez que je vous en lise?
Le début.
Пожалуйста. Как ужасно судьба играет людьми.
Comme le destin joue de façon terrible avec les gens.
Вот уже скоро как 4 месяца идёт война, проливается человеческая кровь, уничтожаются города.
Ça fait déjà 4 mois que la guerre a commencé, que le sang coule, qu'on détruit des villes, qu'on détruit des vies.
Когда я увидела своих товарищей, которые остались в оркестре, а в оркестре осталось 28 человек, остальные все умерли.
Alors quand je suis arrivée à la radio, j'ai vu mes anciens camarades, il ne restait plus que 28 personnes dans l'orchestre, les autres étaient ou morts ou partis au front.
И все они, опять-таки, как мы называем, дистрофики.
Et tous
мужчины в платках, в шапках одеты.
Les hommes avaient des foulards, у некоторых тут гарь
от коптилок. Не могли, некоторые не могли подняться на четвертый этаж, музыканты.
Certains musiciens n'arrivaient même pas à aller jusqu'au quatrième étage.
Сидели во втором этаже. И вот мы ходили за шкирку, ну, под руку брали и тащили на репетицию.
Certains, ну, alors ils montaient jusqu'au deuxième étage et puis nous on portait pour qu'ils puissent arriver jusqu'à la salle de répétition.
Концерт состоялся.
C'était le 20 mars.
А 5 апреля у нас был первый концерт в Пушкинском театре.
Et le 5 avril, on avait notre premier concert au théâtre Pushkin.
Наши мужчины были одеты. Ну, рабочие такие спецовки, да, ватники. Сверху пиджаки свои. У медных инструментов, там валторны, трубы, тромбоны, они все играли в перчатках, но пальчики обрезаны.
Les hommes portaient des vestes de travail et puis par-dessus ils mettaient leurs vestes. Tous ceux qui jouaient des instruments avant avaient des gants avec les doigts coupés au bout.
Так они играли. В зале сидела публика.
C'est comme ça qu'on sait dans ces conditions-là qu'on a joué.
Непонятно, женщины или мужчины. То, что все одеты в платках, воротники подняты, мужчины в женских шубах,
et le public,
женщины в мужских пальто.
Et le public, on ne savait pas si c'était des hommes ou des femmes, parce que tout le monde portait des foulards et des chapkas sur la tête. On ne pouvait pas reconnaître les hommes des femmes.
И когда мы заканчивали произведение, аплодисментов не слышно было, потому что они сидели в варежках.
Et quand on a fini de jouer l'œuvre, on n'a même pas entendu les applaudissements parce qu'ils avaient des moufles.
Genia est morte le 28 décembre à 12h30. Babushka est morte le 25 janvier à 3h. Leka est morte le 17 mars à 5h du matin. Lydia Vassia est mort le 13 avril à 2h de la nuit. Lydia Lesha est mort le 10 mai à 4h de l'après-midi. Maman est morte le 13 mai à 7h30 du matin. Les Savitchev sont morts. Tous sont morts. Il ne reste que moi, Tania. J'ai 11 ans.
Бесконечно снятся вкусные вещи.
La nuit, je n'arrête pas de rêver de bonnes choses à manger.
Дома запасы исчерпаны.
Nos dernières réserves de nourriture sont terminées à la maison. Nous n'avons plus rien.
Но для нас это начиналась новая жизнь.
Pour nous, c'était une nouvelle vie, parce que nous avions pu faire notre premier concert.
Alors, ensuite, après ce succès, vous avez décidé de jouer
Шостакович.
Для начальства наше решило, что в Ленинграде должна идти седьмая симфония.
Voilà,
oui. А с кем? Музыкантов не хватает.
Alors, c'est après ce concert-là que notre direction d'orchestre a décidé que la 7e symphonie de Shostakovich devait être jouée à Leningrad. Mais avec qui? On n'avait pas assez de musiciens pour jouer cette symphonie.
Où était Shostakovich?
Куйбышев, Куйбышев город.
Il était à Куйбышев, dans la ville de Куйбышев.
И Карлович на велосипеде ездил по адресам узнавать, живы музыканты или нет.
Et alors Karolitch, le chef d'orchestre, a fait le tour de la ville à vélo pour aller chez les différents musiciens pour savoir s'ils étaient encore vivants ou pas, pour pouvoir faire un orchestre pour jouer cette symphonie.
С фронта вызывали музыкантов, им давали пропуск. И они шли через комендатуру с пропуском, а там было написано «Пропустить на исполнение седьмой симфонии с Элиасбергом».
On a fait revenir des soldats du front. Des musiciens qui étaient partis au front, on les a fait revenir à Leningrad et on leur a donné des droits de passage où il y avait écrit pour jouer la 7e symphonie de Shostakovich.
Приходит партитура. На самолете из Москвы привозят эту партитуру 7-й симфонии. Тур, все инструменты там.
On fait venir en par avion la partition du chef d'orchestre de la 7e symphonie.
Нужен дополнительный оркестр. Берут из комендантского. Это военные уже приходят к нам.
Et pour pouvoir jouer cette 7e symphonie, comme on était encore toujours pas assez, on a pris des militaires qui jouaient dans un orchestre militaire pour qu'ils nous aident.
Мы, конечно, все в ажиотаже, потому что трудно, всем трудно, все же уже морально отстали, понимаете?
C'était difficile de jouer parce qu'on était tous fatigués, on n'en pouvait plus et moralement, c'était pas simple.
И вот играем, играем, вдруг первый трубач ставит трубу себе на колени и не играет.
Voilà qu'un des musiciens, un soliste, pose son instrument et arrête de jouer.
Карлович останавливает оркестр. Почему вы не играете?
Alors Карлович a arrêté l'orchestre et a dit, mais pourquoi vous ne jouez pas?
У меня, говорит, нет сил дуть.
Il a dit, moi je n'ai pas la force de souffler dans mon instrument.
А как вы думаете, у нас, говорит, есть силы?
Et Карлович a répondu, mais vous croyez que nous on a la force?
У нас ни у кого сил нет, но симфония должна идти. Давайте работать.
И Карлович a dit, personne ici n'a de force, mais cette symphonie doit être jouée, alors on recommence.
И вот, наконец, подошло 9 сентября.
И, enfin, est arrivé le 9
septembre. Афиши в Ленинграде, конечно, только на Невском, что 7-я симфония.
Il y avait des affiches, évidemment, que sous la perspective Невский, qui annonçait le concert de la 7e
симфония. Мы все на... У филармонии стоят грузовые машины. И оттуда выходят солдаты в тулупах, с автоматами. Их специально привезли с фронта на концерт.
Чтобы они что?
Слушали.
Et alors, on est allé à la Philharmonie et on a vu arriver des camions d'où sont sortis des soldats avec leurs fusils et ils venaient pour écouter le concert. On les avait fait revenir du front pour qu'ils viennent écouter le concert.
И вот, наконец, публика собралась. Публика шла ленинградцы, которые еще живы.
Le public, c'était tous les habitants de Leningrad qui étaient encore vivants.
Они шли нарядными, лучше свои наряды одевали. Но все висело у них, как на распялке, потому что все похудели.
Tous les gens qui venaient au concert s'étaient bien habillés parce que c'était un jour de fête, mais comme ils avaient beaucoup maigri, leurs vêtements étaient trop larges.
На балконе филармонии горели прожектора. Знаете, что такое прожектор? Лампы такие согревающие, чтобы немножко обогреть зал.
Sur les balcons dans la philharmonique, on avait mis des gros projecteurs pour que ça réchauffe la salle parce qu'il n'y avait pas de chauffage.
И вот выходит Карл Рич, стройный, опять во всем белом, во всем крахмальном, но чувствует, что он на нервы. Публика встает, нас приветствует, аплодирует.
Et alors, nous sommes rentrés sur scène et Karol Rich est arrivé, bien habillé, bien mis, mais on sentait qu'il était nerveux et le public a commencé à nous applaudir.
И он повернулся к публике, оркестр поднял, публика встала вся, наконец мы сели.
Alors, il s'est retourné vers le public, Karol Rich, le public s'est levé, nous sommes levés, nous sommes rassis.
И мы, он встал за пульт и поднял руку, и рука у него дрожала, он, конечно, нервничал очень.
Il a pris la baguette.
Да.
И il avait les mains qui tremblaient.
Какой-то момент.
C'était à un moment mm-hmm. important.
Момент. И наконец он взмахнул, и симфония пошла.
Et alors il a baissé la main. Vous voyez, juste avant qu'on baisse la baguette pour que la symphonie commence, il a baissé la main et on a commencé à jouer. Да.
Откуда у нас были силы, вот до сих пор я не понимаю, но мы с полной отдачей играли.
D'où on prenait notre force, je ne le sais toujours pas. On a joué cette symphonie, je ne sais toujours pas comment, je me pose toujours la question. Mais on l'a joué et on l'a bien joué, on l'a réussi.
И когда, значит, мы закончили эту симфонию, из зала, в зале встала девочка лет 14, подошла к оркестру и вручила живые цветы. Вы представляете? Это вообще была дикость такая.
Вы не понимаете, что случилось. Мы играли, бомбы падали вокруг нас. Мы говорили, что бомбы должны нас падать на нас, но мы не получили бомбы во время концерта. И когда концерт закончился, il y a une jeune fille dans la salle qui s'est levée, elle devait avoir à peu près 14 ans, et elle nous a apporté des fleurs, mais des vraies fleurs. Vous vous rendez compte, des vraies fleurs.
В Ленинграде не было ни кошек, ни собак, ни ворон, ни голубей, никого не было, все съедено. И вдруг на сцене живые цветы.
Vous vous rendez pas compte? À Saint-Pétersbourg, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de moineaux, il n'y avait plus de chats, il n'y avait plus de chiens, on avait tout mangé. Et d'un seul coup, sur la scène, on voyait des vraies fleurs.
И, в общем, в результате, после этого концерта, мы все целовались, обнимались, радовались, что мы поняли, что мы сделали великое дело, потому что симфония транслировалась на весь мир.
И à la fin du concert, on a compris qu'on avait fait une grande chose, on s'est tous embrassés, on s'est pris dans les bras les uns des autres. On a compris qu'on avait fait une grande chose parce que cette symphonie a été retransmise dans le monde entier. Chez vous aussi, en France, elle a été retransmise.
Simultanément par la radio.
Из филармонии стояли микрофоны.
Dans la salle, il y avait des micros.
И транслировался на весь мир.
Et c'est une symphonie qui a été retransmise dans le monde entier.
И когда симфонию мы отыграли, мы вышли за кулисы, все обнимались, кто плакал, кто радовался, кто как мог проявить свою радость,
après,
что мы великое дело сделали, потому что мы всему миру доказали, что Ленинград взять трудно.
Quand le concert a été terminé, nous sommes tous allés dans les coulisses, nous avons pleuré, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes étreints. Et on a compris qu'on avait fait une très grande chose parce que, en jouant cette symphonie, nous avions prouvé au monde que c'était difficile de prendre Leningrad.
En effet, le concert a été radio-diffusé et l'histoire ou la légende veut que les soldats de la Wehrmacht qui assiégeaient la ville, donc à l'extérieur de la ville dans leur casemate, ont cessé pendant la durée du concert, je crois que la 7e symphonie doit durer peut-être 1h30, ont cessé les bombardements sur la ville pour écouter l'œuvre de Shostakovitch. Et immédiatement après le concert, les bombardements sur la ville ont repris. Légende, peut-être, héroïsme, en tout cas. C'est ça ce que signifient les médailles qu'on voit portées par des vétérans, par des vieilles personnes, quand de temps à autre la télé nous montre des images de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Voilà l'héroïsme. La chose la plus difficile que les Russes ont à vivre dans la tragédie la plus terrible, l'épopée la plus difficile, c'est de devenir un pays normal. On parle de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, là, plus exactement. On pense évidemment à Sarajevo, ce qui s'est passé à Sarajevo. Mais bien au-delà de ça, c'est évidemment ce dont l'homme est capable, incapable, capable d'imaginer, de faire et de garder en mémoire.
У нас умерла тетушка любимая, ее надо было похоронить.
Ma tante est morte en octobre 1942, il a fallu l'enterrer.
Ведь многие не могли похоронить, многие оставляли на улице, в реку сбрасывали трупы.
C'était difficile d'enterrer les morts, il y avait beaucoup de cadavres et de morts dans la rue.
Но мы тетушку на двух санках заказали с досок, вроде гроба, ну такой ящик. Et повезли на кладбище.
Nous avons trouvé une boîte, un cercueil, si vous voulez. Nous avons mis ce cercueil sur deux luges et nous avons emmené ma tante au cimetière, comme ça.
Et когда мы привезли на кладбище, взяли мужчину, а морозы были жуткие, по 30 градусов, по 35. Земля вся промерзлая. Но он все-таки раскопал ямку, захоронили мы.
Nous sommes arrivés au cimetière, nous avons demandé à un homme de creuser le trou, de creuser la terre pour que nous puissions mettre le cercueil. Il faisait très très froid, c'était l'hiver, il faisait moins 30, moins 35. Nous avons enterré ma tante et nous sommes revenus.
Et quand nous sommes arrivés à la sortie du
Et quand nous nous sommes approchés de la sortie du cimetière, il y avait une église juste à côté.
Et nous regardons. Лежат, знаете, как бревна складывают стеллажами, да? Вот так, потом так, вот так.
В трупе, да?
Стеллажи чего-то. Мы не могли понять, что это такое. Мы подошли поближе, а это все мертвые.
Près de la sortie du cimetière, on voyait au loin comme des bouts de bois, les uns sur les autres. Vous voyez, entassés les uns sur les autres, comme ça. On n'arrivait pas à comprendre ce que c'était de loin. Alors on s'est approché, et c'était des cadavres.
И когда мы подошли поближе, то мы увидели, что попочки все вырезаны.
И когда он s'est approché de
На котлеты. У мертвячины, представляете?
Когда он s'est approché des cadavres, on a vu qu'il leur manquait un bout des fesses. On leur avait coupé les fesses pour en faire des côtelettes.
То ел это мясо от мертвых. Они же все умерли, вы понимаете? Это уже были ненормальные люди, голодные.
Les personnes qui ont mangé les cadavres sont mortes ensuite. C'était des gens qui n'étaient déjà plus normaux.
по улицам бесконечно везут покойников, в гробах очень мало, а то просто завернуты в тряпки, одеяла и на санях.
On voit de plus en plus de cadavres dans la rue, les gens meurent de faim et il n'y a pas assez de tombes. Alors les gens sont simplement enroulés dans des draps ou dans des vêtements et comme ça dans la rue.
Трамваи не ходят, квартиры света нет.
Les tramways ne fonctionnent plus, il n'y a pas de carburant et dans nos appartements, nous n'avons plus de lumière.
Нету большинства керосину, дров нет.
Il n'y a pas de kérosène, il n'y a pas de bois.
О боже, хочу музыки, хочу окунуться в мысли, не думать только о своем желудке.
J'en ai marre de penser tout le temps à mon estomac. J'aimerais pouvoir faire de la musique, je veux de la musique. J'aimerais penser à d'autres choses qu'à mon estomac.
Вот от всех исполнителей симфонии, которые остались в оркестре работать и доработали до пенсии, никого нет. Я осталась одна.
De tous les...
Даже приезжайте ко мне. Не понимаю.
De tous les gens qui ont joué cette symphonie et qui sont restés dans cet orchestre jusqu'à leur retraite, jusqu'à la fin de leur vie, je suis la dernière survivante. Je suis la dernière. Et c'est pour ça que vous venez me voir.
Aujourd'hui, cette ville ne s'appelle plus Leningrad, et vous avez joué pour la libération de Leningrad. Est-ce que vous regrettez que le monde ait changé comme ça?
Я пишу письма, и когда пишу обратный адрес, я пишу Ленинград. Я не могу Санкт-Петербург писать.
Vous savez, moi, je peux pas écrire Saint-Pétersbourg. C'est pas possible. Quand j'écris des lettres, j'écris Leningrad. C'est à Leningrad. Moi, je peux pas écrire Saint-Pétersbourg.
Блокада это Ленинград.
Le siège, c'est Leningrad.
Мы И вот мы брали лом вдвоем в руки и шли на Невский очищать этот снег и лед. И 15 или 16 апреля пошли по Невскому трамваю. Чья это заслуга? Наша. А сейчас во что превратился Ленинград? Вот я не могу выйти на улицу, мне стыдно.
On nous demandait pendant le siège d'aller enlever la neige pour que les tramways puissent continuer à fonctionner. On était faibles, on n'avait pas à manger. On était à deux pour prendre une pelle pour pouvoir enlever la neige. On a nettoyé les immeubles quand il y avait les bombardements. Et regardez ce que c'est devenu, cette ville. Nous, on y a participé à la construction de cette ville, à Leningrad. Et regardez ce que c'est devenu. J'ai honte maintenant quand je vais dans la rue.
Est-ce que vous avez honte aussi pour la Russie?
Стыдно.
Oui, j'ai honte pour la Russie.
Стыдно.
J'ai honte.
Стыдно.
J'ai honte.
C'est une histoire magnifique. Vous avez eu une vie magnifique à cause de ça. C'est une vie très malheureuse à cause du siège. Mais en même temps, ça a été une vie extraordinaire. Une vie héroïque, une vie superbe comme ça.
Я все вложила свою дочку и внучку.
J'ai tout mis dans ma fille et dans ma petite fille.
Ну, должна вам сказать.
Mais je dois vous dire,
что когда я ушла на пенсию,
que quand je suis partie à la retraite,
тут я сдала, у меня были казенные концертные платья. Это я все взяла и все сдала. И когда я вышла из филармонии с пустыми руками, у меня только сумочка. Мне чуть плохо не стало. Думаю, как это так? У меня впечатление было, что я голая, что меня раздели и ограбили. Вот так мне трудно было расстаться.
Je suis partie à la retraite et il fallait que je rende toutes mes affaires à la Philharmonie. Alors j'ai dû rendre ma robe de soirée, j'ai dû rendre tous mes vêtements, les livres que j'avais pris à la bibliothèque. J'ai été rendre tout ça et puis je suis sortie. J'avais seulement mon sac dans les mains. Je me sentais vraiment toute nue, j'ai cru que j'allais me sentir mal. Tellement ça a été difficile pour moi de me séparer de tout ça.
Et maintenant ça va mieux.
Когда вот я слушаю, и вдруг я слышу родные звуки, рожка, гобоя. Думаю, боже мой, это все в прошлом, это все в прошлом.
Non, aujourd'hui encore, je suis triste, parce que quand j'entends de la musique et que j'entends le son du hautbois, j'ai l'impression que c'est mon hautbois, et puis j'entends ça, puis je me dis, tout ça c'est du passé, c'est du passé, c'est fini.
Ну что я буду смотреть? Вот что я смотрю?
Regardez là, qu'est-ce que je vois?
Вот Шостакович, вот Лязбург.
Это Шостакович?
Да.
Regardez là, c'est Шостакович sur la photo.
Вот так, с кем я не была знакома. Это же все моя жизнь. Я могу этим
радоваться. Qui je connaissais, qui était mes connaissances, c'est toute ma vie, tout ça.
Вот, видишь, какая молодая. А тут какой год? 65-й год.
Regardez là, comme je suis jeune. C'était en 1965.
Mais vous avez une belle vie.
Хорошая жизнь, ничего не могу сказать. Вот теперь живу одна, мне очень тоскливо. А съезжаться со своими девчонками не хочу.
C'est un peu triste, c'est un peu ennuyeux.
Они ко мне приходят, они вот звонили уже несколько раз.
Ma petite fille et ma fille viennent me voir.
Так. Я их очень люблю, они меня тоже любят.
Je les aime beaucoup, ils m'aiment beaucoup aussi.
Мужа похоронила. Друзей похоронила.
J'ai enterré mes amis.
Родных похоронила.
J'ai enterré mes proches.
Я всюду осталась одна, кроме своих девчонок.
Je suis restée seule, je suis la dernière. Mis à part ma fille et ma petite fille, je suis la dernière.
Voilà, merci à tous, merci à Ksenia, merci aussi à Shostakovich, le compositeur de cette œuvre absolument sublime qui nous a accompagné, qui a accompagné cette histoire qui n'est pas moins. Technique aujourd'hui, Michel Thomas et Antoine Viossa, assistante Joël Levert, chef du répondeur Christophe Humbert, il y aura plus de répondeurs demain, on prendra plus de temps, assistant Koy Nguyen, le répondeur de la basse, j'y suis, le numéro est célèbre aujourd'hui, c'est le 01 56 40 37 37, le mail daniel.mermet@radiofrance.com, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.